Alors, deuxième remarque, qui apparemment est dans tout un chapitre, mais vous verrez à la fin du coup comment c'est relié et comment le lien de ces deux remarques peut nous donner une réponse à notre... D'autre part, j'ai aussi remarqué que tous les systèmes de philosophie font le blackout sur un problème que j'appellerai, même ceux qui en parlent d'ailleurs, mais que j'appellerai la finalité du temps. Le temps, à quoi ça sert ? La durée, à quoi ça sert ? Et j'explique la question que je vais poser. Que signifie le fait que notre manière d'exister soit d'exister à travers la durée, à travers le temps ? Vous voyez, une chose existe dans l'espace. Ma conscience, ma personne en tant que conscience existe dans la durée. Alors, que signifie ce fait-là ? Vous suivez ? Il y a un seul philosophe, à ma connaissance, qui a vraiment posé le problème, c'est Bergson. Mais je ne veux pas parler de Bergson aujourd'hui, parce que ça nous prendrait trop de temps. Mais enfin, peut-être en passant. Vous voyez, là... Bon, je ne pense pas que ce soit par hasard que Bergson soit d'origine juive. Il y a ici le génie hébraïque qui se laisse entendre par rapport au génie grec. Le génie grec a été fasciné par l'espace, alors que le génie hébraïque a été fasciné, si j'ose dire, par le temps. Et qu'est-ce que c'est durer ? Qu'est-ce que c'est exister pour l'homme ? C'est exister un instant de plus. C'est exister encore. Vivre, c'est survivre. Exister, c'est exister encore. C'est exister dans la durée. J'existe le temps que j'existe. Ma courte. Okay. Vous comprenez cette... Non, ça ne se passe pas là-bas, écoutez. Vous n'êtes pas des gamins. Quelqu'un rentre ou sort, il faut que vous soyez hypnotisé par la porte. Alors, qu'est-ce que je disais ? Eh oui, la manière d'exister du fait humain, c'est d'exister dans la durée. J'existe en tant que je dure. Vous comprenez cela ? D'ailleurs, tout le souci de l'existence pour l'homme, c'est d'exister un instant de plus, encore. Okay. Ça y est, c'est clair ? Bon. Alors, quelle est la signification de cela ? Dans le sens, quelle est la finalité du temps humain ? Quelle est la finalité du fait que ma manière d'exister, c'est être en destinée historique, en histoire, okay. D'être sujet, objet d'une histoire, ce qu'on appelle une destinée, que j'ai un but auquel je tends. Par exemple, le stoïcisme dira, eh ben, le but auquel tu tends, ça n'existe pas, c'est d'un absurde absolu, parce que quand on est mort, c'est fini. Alors il n'y a pas de but, il y a tout simplement... une dimension provisoire de durée vit là de la manière la plus digne possible, et puis quand c'est fini, vous voyez à peu près le problème. Et vous voyez que là il y a une option de tempérament spirituel qui vient de l'âme beaucoup plus que de l'intelligence. Ici, devant ce problème, il n'y a que l'option du pessimisme ou l'option de l'optimisme. L'option de l'optimisme, c'est que oui, la durée mène à quelque part de positif, qu'il y a un sens à cette destination. Bien. L'option pessimiste, c'est de dire non, ça n'a pas de sens, et puis c'est une bulle de rêve qui fonctionne par hasard comme ça, alors rêvons le mieux possible, et puis c'est fini. Bien. Vous voyez à peu près les deux options. Ça ne vient pas de l'intelligence, l'option, ça vient de l'âme. Est-ce que c'est clair ? Celui qui vous dira, on étudiera ça entre Jacob et Ésaü, par exemple, Ésaü dira, à quoi me sert l'aînesse, c'est-à-dire la prêtrise, la valeur, puisque je vais mourir. Vous voyez ? C'est la ligne du pessimisme. Alors ça passe à Jacob. Cette option, ils ont la même intelligence. Vous savez, faire des théorèmes de mathématiques, Jacob et Ésaü sont égaux. Okay ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est la même, l'intelligence. C'est l'intelligence de l'homme. L'option spirituelle ne vient pas de l'intelligence. Elle vient de l'âme. Elle vient de plus profond que l'âme, d'ailleurs. Mais enfin, elle vient de la personne, de la manière d'être homme. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez, la Inyana Eloki. Vous voyez, la différence d'option radicale. Okay. Bon. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la philosophie ne peut pas donner de réponse à cette question. À quoi sert le temps ? Parce que l'option de la philosophie, le postulat de la philosophie, c'est que l'homme existe déjà. C'est que l'homme est... Pour la Torah, l'homme n'est pas encore, il devient. Alors, si j'ai conscience que je suis déjà, eh bien, le temps, à quoi ça sert? Je ne sais pas. Le temps, c'est l'ennui. Je suis déjà. Alors, il faut passer le temps. Vous y êtes? Okay. Et vous voyez, d'où vient cette option de absurdité de la destinée? C'est une erreur morale. Je crois que je suis déjà. Il y en a un seul qui a le droit de dire je suis. C'est le Créateur. Okay. Je vous raconte une petite histoire hassidique qu'on raconte souvent, mais qui est très éclairante. Un jour, un élève est allé voir son maître. Il arrive pendant la nuit, il frappe à la porte, le maître ouvre la petite lucarne et demande qui c'est. Et l'élève répond, moi, Anochi. Alors le maître répond, ferme la lucarne sans répondre. Un an après, il revient. Il dit, qui c'est? Moi. Il referme la lucarne. La troisième fois, il revient, il dit, qui c'est? Il dit, ton élève. Il dit, allez, monte. Il dit, maintenant, t'as compris. Et comment tu peux dire moi? Est-ce que tu es déjà? Vous voyez, qu'est-ce qu'il a? Il y a un sentiment de soi qui est de nature différente du point de vue de la signification morale. Okay. Voilà, ici, il y a une différence radicale. La conscience philosophique a conscience d'elle-même comme existant, déjà. Okay. Il y a une espèce de coïncidence, l'être, c'est moi. Vous voyez, c'est une conscience kainite, vous vous rappelez? Kaniti. Okay. Je me suis déjà acquis, je suis. Qui peut dire je suis? Vous voyez le problème? Vous voyez qu'ici l'hébreu et le grec seront dans deux antipodes. Pour l'hébreu, je ne suis pas encore. Je suis en train d'acquérir le droit d'être, le mérite d'être. Je suis une créature. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui reçoit l'être, c'est pas moi l'être. L'être, c'est le créateur. Vous voyez qu'il y a une différence de sensibilité radicale et qu'il n'y a aucun compromis au niveau du raisonnement par l'intelligence. C'est une option radicalement différente. Je me connais comme créature. Le philosophe se connaît comme étant l'être. Oui. Mais pourquoi l'option philosophique est foncièrement athée? Hein? La conscience philosophique n'a pas de créateur. Elle est l'être. C'est clair? Hein? Alors que la conscience hébraïque se connaît comme créature. On reprendra ça dès qu'on commence à étudier Abraham. Hein? Abraham est le premier homme qui, de nouveau, se connaît comme tel, se connaît comme créature. Se connaissant comme créature, et c'est une attitude de vertu morale, se connaître comme créature et non pas intellectuelle. Me connaissant comme créature, je sais premièrement que j'ai un créateur. Me connaissant moi-même, je connais mon créateur. Vous y êtes? Sans sortir de lui-même, Abraham connaît qu'il a un créateur. Et comme c'est la première fois que c'est authentique, ce créateur s'adresse à lui. Tu m'as reconnu, coucou, c'est moi, Ali Hachet. Okay. Vous y êtes? Les autres ne peuvent pas entendre, parce que ils ne sont pas dans la position d'avoir une oreille. Shema Israël, c'est pour Israël. Vous suivez? C'est-à-dire, il y a une manière de se connaître qui est de l'ordre de la vertu morale. C'est assez proche de l'humilité, mais ce n'est pas l'humilité elle-même. Je me connais comme créature. C'est-à-dire que si je ne recevais pas l'être qui me fait être, je n'existerais pas. C'est le commencement de la piété d'Abraham. Et comment il le sait? Et il en témoigne, on en a parlé peut-être au début de l'année, en mangeant. Il suffit que je comprenne que si je ne mange pas, je n'existe pas, pour que je sache que je suis créé. Si je ne reçois pas l'être qui me fait être, je n'existe plus. Par conséquent, c'est en mangeant qu'Abraham découvre qu'il a un créateur. Vous vous rappelez, je vous ai dit souvent, Birkat Hamazon, Garavu. Okay? C'est vraiment la première liturgie hébraïque, c'est le Birkat Hamazon. Ça veut dire, c'est dans le fait de manger que je connais que j'ai un créateur. Alors vous vous rappelez ce que la Midrash raconte? Peut-être vous aérez un peu, non? Et alors, pourquoi vous nous asphyxiez comme ça? C'est de l'asphyxiation. Il n'y en a pas deux, déjà, c'est qui? Voilà. Un tout petit peu. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi. Ça vous gêne vraiment que la porte soit ouverte? Ah. Bon. Alors, je vous cite simplement ce Midrash, qui est que Abraham invitait les passants à sa tente, et puis leur donnait à manger. Et à la fin du repas, il leur disait, maintenant, on va remercier celui qui nous a donné à manger. Alors tous ces invités, spontanément, voulaient remercier Abraham. Hein? Alors il dit, non, c'est pas moi qu'il faut remercier. Et c'est là qu'il commençait à expliquer que le monde a un créateur de qui on mange, grâce à qui on mange, de qui on mange. Okay? Vous comprenez le problème? Et vous voyez qu'on est tout à fait en dehors de l'expérience philosophique. C'est un... une expérience qui n'a rien à voir avec l'exercice de l'intelligence, qui est plein de postulats ici dans ce problème. L'intelligence, c'est un piège qui me fait croire que j'existe. J'existe pas, je mange. Ça veut dire je mange pour exister. Ça veut dire j'existe pas encore. Et en vérité, vous avez compris ce que je veux dire, je deviens. En vérité, si je devais employer les termes philosophie dans leur sens strict, c'est la différence précisément entre exister et être. Être, c'est être absolument. Exister, c'est être relativement à une cause qui me fait être. C'est clair ? La différence entre exister et être. Donc je devrais dire, je ne suis pas, j'existe. Il y a une petite analyse dans les méditations métaphysiques de Descartes qu'il faut lire en latin, parce qu'il a écrit ça en latin. Et quand Descartes dit « je pense, donc je suis », eh bien, oui, il y a cette indication-là. Lui, oui, il pense à autre chose, okay ? Mais si nous utilisons son unité de lecture ici, « je pense, donc je suis », eh bien, l'hébreu répondra « je suis pas ». À tout le moins, j'existe. Il faudrait dire « je mange okay ». Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que l'acte, le comportement qui consiste à manger ne s'arrête jamais. Okay ? Et au moment du repas, on enfourne dans l'estomac une pelletée de charbon. Mais la combustion de la digestion se fait de façon perpétuelle. Ça veut dire, ma manière d'exister, ça consiste à manger. Et puis, à partir du moment où j'ai ingéré la nourriture, c'est de l'autophagie, je me mange. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pourquoi, quand il n'y a pas suffisamment de provisions, il y a de la fièvre. Parce que la combustion, ça chauffe. C'est-à-dire, nous sommes en perpétuelle autophagie. Hein. Et c'est clair ce que je dis là. Bon. Et alors, là. Vous voyez, là, je pense que si c'est suffisamment clair, on peut maintenant relier les deux remarques. Pourquoi le philosophe n'arrive pas à donner une réponse au problème du fondement de la moralité, de l'obligation morale ? Parce qu'il ne donne pas de réponse au problème de la finalité du temps. Qui a compris déjà ? Reliez les deux. Alors essaye d'expliquer. Qui a levé le doigt ? Alors rabaisse-le, c'est fait, et explique. Oui. Comment ça marche ? Le lien entre les deux remarques pour donner une réponse à notre question.
Le lien entre le problème du temps et...
Attendez, je suis obligé d'aller téléphoner. Réfléchissez. Le lien entre ces deux remarques. Premièrement, que la philosophie n'arrive pas à définir le fondement de l'obligation morale. Et deuxièmement, le fait qu'elle n'arrive pas à définir la finalité du temps. Okay ? Comment le lien entre ces deux remarques nous donne notre réponse à la question posée, c'est-à-dire le fondement de l'obligation morale. Bon, je reviens dans un petit peu.
Je suis en même temps moral sans avoir besoin. Je suis le bien aussi.
Si, continue parce que ce que tu dis n'est pas faux, mais...
C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas encore l'être, qui est en devenir, c'est quelqu'un qui a besoin de la morale pour arriver au but pour arriver à l'être.
Très bien. Alors, dire que je suis l'être, donc je suis l'être moral absolu, si je suis l'être absolu, je suis l'être complètement moral. Et puis on verra si on a un critère ou pas, okay, mais par définition... Ah ben c'est d'un orgueil épouvantable. Et qu'il y a un défaut moral, déjà, dans le fait de dire « je suis l'être ». Si nous n'avions pas le récit de l'histoire de Caïn, on risquerait de tomber dans le piège. C'est ce qui est arrivé à Caïn. Je suis. Et alors, vous savez ce qui est arrivé ? Je suis. L'autre est en danger chez moi. Tant qu'il ne me gêne pas, il est là. Abel, Caïn, Messie. Vous vous rappelez de ça ? La limite de l'expérience philosophique ainsi définie s'appelle le solipsisme. A voir si j'ai pas fait pour l'autographe.
Solipsisme.
Ok, d'accord. C'est un C ou un S ?
C'est
solipsisme. Vous êtes sûr ?
Oui.
Bon. Qu'est-ce que c'est que le solipsisme ? Je suis seul. Et vous, qu'est-ce que vous seriez si j'étais solipsiste, Dieu préserve ? Vous seriez des images de ma perception. Vous seriez des images de mon rêve. Si une image ne me gêne pas, eh bien, elle est bien chez elle, elle est bien chez moi. Caïn, Ken, si elle me gêne, eh bien, je l'évacue. Vous y êtes ? Là, je suis le sujet de ma perception. L'être, c'est moi. Et alors, vous êtes quoi? Des représentations. Okay? Donc, je suis seul. Solipsisme, ça veut dire être seul. Okay? Je suis, ça veut dire je suis seul. Je suis seul à être. C'est la définition, d'ailleurs, de l'être. Il n'y en a qu'un. Okay? Il n'y en a pas deux. Vous y êtes? Non, vous y êtes pas. Vous voyez le danger? Les philosophes sont avertis de ce piège et ils font tout ce qu'ils peuvent pour être gentils. Mais dans leur fort intérieur, ils sont là-dedans. Je suis, alors je suis seul. C'est d'autre part que je vais faire une place à autrui. D'où j'ai appris qu'il faut faire une place à autrui? J'ai lu la Bible. Ma mère, elle m'a dit. Ça rappelle une controverse un jour que j'ai eue avec un curé. Ça s'est resté dans ma mémoire. C'était pendant la guerre. Il y avait un aumônier catholique et moi, israélite. Alors, après avoir enterré les morts, on discutait. Alors, il m'avait dit une chose, ce curé-là. C'était inouï, parce que moi, j'avais une toute petite barbe. Ça gênait pour le masque à gaz. Et puis, lui, il avait une grande barbe. On aurait dit un yeshiviste. Et alors, il dit qu'il était inquiet, parce que, finalement, les Juifs avaient beaucoup plus souffert que les chrétiens. Donc, peut-être qu'ils étaient plus Israël que les chrétiens. Il a fallu que je console, lui dire qu'ils étaient un petit peu quand même. Et alors... non, ça rend d'ailleurs. Et il m'a dit, vous voyez, que ces privations que je m'impose à un curé, c'est pour gagner le paradis. Il dit, bon. Alors, le... il voulait me démontrer qu'effectivement, il fallait que Dieu lui-même se fasse homme pour pouvoir nous enseigner, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que vous voyez, c'est le fond du problème. Il faut faire une place à l'autre. Alors je lui dis, moi, tu sais, j'ai pas besoin que Dieu se fasse homme. C'est une théophanie fantastique. Imaginez que Dieu se fasse en plus, il s'est fait juif, ça, il oublie. Non il dit, ma mère, elle m'a dit ça, ça suffit. J'ai besoin, moi, que Dieu se fasse homme pour savoir qu'il faut aimer son prochain. Ma mère m'a expliqué ça quand j'étais gosse. Oui, mais ça, un goy n'arrivera jamais à comprendre. Bon, je referme là. La parenthèse. Il a besoin d'une stratégie magique, pareil, pour arriver à se convaincre que l'autre, ça existe aussi. Vous voyez que c'est d'autre part que le sentiment de la moralité. Bien. Et alors, là... de quoi je parlais? Oui, il y a une espèce d'attitude d'orgueil qui mène au solipsisme. Et donc, ces philosophes de la moralité font tout ce qu'ils peuvent pour être moraux, parce qu'ils le sont d'autre part. Et quand ils racontent que c'est leur intelligence qui leur a expliqué, c'est des histoires. Okay, ce n'est pas de l'intelligence, ça vient au contraire. Quand on aura le temps, on fera des exercices, je vous démontrerai par l'intelligence que tu ne tueras pas et n'est pas du tout rationnel. N'est pas du tout rationnel. D'après une morale naturelle, si je prends les critères de ce qui est le vrai moral dans la nature, eh bien, pour exister, il faut tuer. Dès que vous mangez, vous avez avalé quelqu'un. Quelqu'un qui était en potentiel, au niveau du cornichon ou de la tomate, mais qui aurait pu devenir un homme après X éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La vie naturelle, c'est la jungle. Il y avait un très joli vers de Victor Hugo. Pourquoi tu te rappelles quand tu étais tomate? vous avez jamais remarqué, bien contemplé, une palme, une arête de poisson et un squelette? Vous n'avez pas remarqué que ça ressemble? Non, ça dit que Katamar, il fera rien, il faut manger du poisson. Bon, et alors, qu'est-ce que je disais? Oui, la loi de la nature, c'est il faut manger pour vivre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il faut manger pour vivre? Il faut avaler quelqu'un à chaque fois. Bon, Victor Hugo, il disait, la vie, ou je ne sais pas quoi, la vie est une roue qui ne peut tourner sans écraser quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Bon, alors on ne peut pas ne pas nier cela. C'est pas de l'intelligence que viendra le critère de la moralité. Il est surnaturel. Si je prends le mot de nature dans son sens strict. Okay. Vous n'avez jamais vu un bouillon de culture sous le microscope, là? tous les microbes qui n'ont qu'une seule fonction, c'est d'essayer de s'avaler les uns les autres. Haïm Belaou, si on laissait les hommes sans police, ils s'avaleraient les uns les autres. Par amour, je t'adore, je te mangerai, je t'avale. Ça vous fait penser à quelque chose. Oui. Et alors, oui. Alors, je vais reprendre l'analyse. Vous voyez que dès l'option philosophique elle-même, je suis, j'existe, vous avez compris la différence. J'existe, ça veut dire je suis en train de devenir. Il y a une option d'ordre moral qui apparaît comme telle, qui est en deçà, au-delà d'une analyse intellectuelle. C'est clair ? Et je n'ai jamais arrivé à comprendre comment, envisageant l'hypothèse d'Abraham, un philosophe peut rester sérieux. Le philosophe sait très bien qu'il mange, et que s'il ne mange pas, son intelligence ne peut pas fonctionner. Mettez un philosophe la tête en bas, il s'arrête de philosopher. vous voyez ce que je veux dire ? Imaginez un philosophe la tête en bas. Je ne sais pas si vous savez que... Bon, enfin, ça... Et alors, voilà donc quel est le problème, et il est très simple, le lien entre ces deux remarques. C'est que le temps, c'est précisément le temps qui m'est donné pour me donner le temps d'acquérir le mérite d'être. Ça veut dire que le temps a une fonction absolue, je veux dire, la durée. Le fait que ma manière d'exister, c'est de durer, a une dimension métaphysique absolue. C'est la dimension qui m'est donnée pour avoir le temps de résoudre ce problème qui, dans l'instantané, serait insoluble, mériter d'acquérir mon être. Ça veut dire toute cette tâche qui consiste à « je suis créature, mais je ne serai vraiment que lorsque j'aurai mérité d'être », mais distribuée le long du temps de ma destinée. Oui, c'est pour me donner le temps de résoudre ce problème. Il faut que je m'acquérir en une fois, dans l'instantané. Je ne peux pas, parce que la seule manière de m'acquérir, c'est de me rendre. Sacrifice d'Isaac. Tu es bien, parce que je vous parle beaucoup de choses de la foi maintenant. Okay? Il faut que je paye le prix de mon être. C'est ça, acquérir le mérite d'être. Okay? Mais il y a une seule manière de payer le prix de mon être, c'est mon être lui-même, je n'ai pas d'autre monnaie. Vous suivez ? Et alors, nous avons une tradition, déjà dans le Talmud, surtout dans le Zohar, mais déjà dans le Talmud, très importante. Les mitzvot à travers le temps, c'est que je monnaie le sacrifice d'Isaac. Le sacrifice d'Isaac, c'est en un coup. Je vous décris la scène. Qu'est-ce que Dieu demande à Isaac ? Rends-moi l'être que je t'ai donné. Dès que Isaac est prêt, Dieu lui dit, c'est à toi, t'as payé le prix. Bien. Vous y êtes ? C'est pas plus compliqué que ça. Bien. Où est le sacrifice ? C'est dans l'épreuve. Est-ce que je suis prêt à me racheter ? Mais avec quoi je vais me racheter ? Il n'y a pas d'autre monnaie valable par rapport à mon être. La seule monnaie que je peux donner, pidyon nefesh en hébreu, ifdot et nafshi, c'est mon être lui-même. Dès qu'Isaac est prêt, Dieu lui dit, c'est à toi, tu t'es acheté, tu t'es acquis. Okay? Alors, vous suivez cela ? Il y a un thème du Talmud qui nous dit cela de façon extrêmement profonde. Toutes les mitzvot, c'est faire la monnaie, si j'ose dire, du sacrifice d'Isaac. C'est le sacrifice d'Isaac sur tel ou tel petit point de mon être. Chaque mitzvah, c'est un psyche du sacrifice d'Isaac. Et je vous ai parlé en français, ça ne veut pas dire sacrifice en hébreu. Okay? Parce que n'oubliez pas que le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Ça les goïms l'oublient. Okay? Le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a eu ? La mise à l'épreuve. Tu es prêt à te rendre, je ne sais pas comment te dire. Dès qu'Isaac a dit « je suis prêt », alors Dieu dit « c'est à toi ». Il dit à son père « ne le touche pas ». Fini, rien. Camarno, éventem. Bon, alors je reviens dans notre analyse. Le temps, c'est d'avoir le temps d'acquérir mon être. Le temps, c'est le temps de la moralité. Okay. À quoi sert la moralité ? À me faire acquérir mon être. C'est ça la monnaie que je paye. Quelle est ? Et c'est pourquoi je vous ai donné cet exemple. Enlevez la parenthèse. La vertu, c'est ce qui me fait acquérir le droit d'être. Alors, je comprends les deux choses à la fois. À quoi, quel est le fondement de la moralité? Mon être. Okay. C'est pas l'utile, l'agréable, tout ce que vous voudrez, c'est de me faire acquérir mon être. Là, enfin, la moralité a un fondement, et un fondement colossal. Okay. Et on reprendra d'autres analyses par la suite, mais je vais vous donner tout le plan que je vous avais montré, la notion de faute, de repentir, déjà aujourd'hui, en plan, en introduction. Et le temps, c'est précisément le temps de pouvoir acquérir mon être à travers la moralité. Est-ce que c'est clair? Chaque fois que j'accomplis une vertu, j'ai acquis un point de mon être. Et il faut le temps. Je ne peux pas résoudre ce problème-là dans l'instantané. Et quand j'ai acquis, quand j'ai fini d'acquérir mon être, eh bien, j'ai fini ma destinée terrestre de ce temps provisoire avant le temps d'éternité.
Quand quelqu'un meurt, on considère qu'il a acquis, on
le lui souhaite, parce qu'il n'a pas fini d'acquérir, il faut qu'il revienne. Et c'est fatigant. Oui, c'est pour ça qu'il avait 3 ans à ajouter. Tous ces problèmes-là ont leur réponse. Okay. Tout ça, on en parlera, hein, pas tout à la fois. Okay. J'entends très bien vos questions, celles que vous avez dites, celles que vous n'avez pas dites. Mais on les retrouvera à leur place. Et alors, oui, réfléchissez bien à cela. Ce que vous découvrez là est l'alphabet de la conscience hébraïque. Une conscience hébraïque fonctionne comme ça, comme une donnée immédiate de la conscience. Un philosophe n'arrive pas à fonctionner comme ça, parce que son postulat, c'est qu'il est. Alors, s'il est, c'est bloqué. Tout ça lui devient absolument hermétique. Tu voulais chercher ton livre. Enfin, il faut vous désintoxiquer d'habitude mentale très très longue. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un enfant du Talmud Torah fonctionne comme ça spontanément. La conscience hébraïque fonctionne comme ça. Okay. Vous voyez, quand je vous dirai, ça nous vient premièrement d'Abraham. C'est notre identité abrahamique en nous qui fonctionne comme ça. Prendre conscience de soi comme créature, ça veut dire qu'il faut que je justifie l'être que je reçois. Le génie hébraïque a compris cela, et c'est pourquoi Dieu s'est adressé à lui. Et quelle est la. Comment je vais le justifier? Par la moralité. C'est clair? Alors il en résulte que l'acte moral, la vertu ou la faute, prennent une dimension métaphysique absolue, énorme, plus que dramatique. Je ne sais pas comment dire, il faudrait trouver encore un autre adjectif. Ça veut dire que la vertu, ça a un prix énorme, ça me fait acquérir mon être. La faute. Ça a une gravité énorme, ça risque de me le faire perdre. Je veux dire qu'il y a une dimension de gravité dans la notion de moralité, dans la conscience biblique, qu'on ne trouvera pas dans les autres systèmes de morale. Dans un autre système de morale, par exemple la morale de l'utilité, j'ai fait quelque chose de pas bien, c'est-à-dire pas utile, bon, eh bien c'est pas plus, pas moins, mais pas plus. C'est pas utile, c'est mal, pas plus grave. Vous voyez, j'ai dérangé un ordre, pas plus. Tandis que là, j'ai mis en jeu ma destinée. Dans chaque acte, vous voyez, il y a une espèce d'atmosphère de panique qui risque d'arriver dès qu'on a découvert ça. Okay. L'hébreu n'est pas paniqué, mais dès qu'un non-hébreu entend cela, de quoi vous parlez-vous les hébreux, il est paniqué. Ça veut dire, alors je vais engager ma destinée d'être dans chaque acte de moralité, vous suivez, c'est énorme. Et bien oui, c'est ça. Et il faudrait comprendre pourquoi l'hébreu n'est pas paniqué. De ça je vous parlerai après, parce qu'il n'est pas en face de la loi. Comme principe impersonnel. Si la loi, c'était que des principes impersonnels, on serait paniqué. Parce qu'on ne discute pas avec la loi si c'est que des principes impersonnels. Il n'y a pas moyen d'avoir une pshara. Vous voyez ce que je veux dire? Un compromis quelconque. La loi, ce n'est pas un absolu impersonnel. C'est la mise par écrit de la volonté de quelqu'un qui est mon père en tant qu'il m'a créé. Avec lui, je peux discuter, pas avec la loi. Vous y êtes? C'est-à-dire, si j'entends que l'hébreu ne parle que de la loi impersonnelle, je serais paniqué. C'est ce qui est arrivé aux chrétiens, je vous en parlerai un autre jour. La loi, au lieu de sauver, la loi perd. Alors il faut être sauvé de la loi. Tout ça, c'est le paulinisme. Okay. Vous suivez? Vous voyez cette panique? Okay. Ça veut dire, c'est fondamentalement, Saint Paul, c'est un athée. Alors il ne sait pas que derrière la loi, que la loi, c'est la volonté de quelqu'un avec qui il peut parler. Ah non, il ne sait pas, il ne parle pas hébreu. Vous voyez le problème? Je vous dis une chose très paradoxale, que fondamentalement, l'orthodoxie chrétienne, c'est une doctrine de gens athées. Okay. En tout cas au niveau de Dieu le Père, comme ils disent. Et je finis donc l'analyse. Vous voyez cette notion de gravité qui s'attache à l'acte moral. Gravité, il faudrait trouver un mot beaucoup plus grave, beaucoup plus grave que gravité. C'est clair ? Bon. Non, enlever tragédie, parce que justement, il y a une solution. Tragédie, c'est quand il n'y a pas de solution. Il y a panique, quand même, pas grave. Plus que la peur, la terreur. Quand même. J'ai découvert que mon acte moral met en jeu ma destinée d'être, et pas simplement un aménagement de bonheur, ou de joie, ou de plaisir, ou d'utilité. Il y a ça aussi, mais pas que ça. Il y a une dimension beaucoup plus fondamentale, colossale, énorme. Vous voyez pourquoi l'ensemble des civilisations va avoir peur de la position juive. C'est à travers la Torah qu'on acquiert ou qu'on perd son être. Et toutes les civilisations vont refuser ça. S'il en est ainsi, nous sommes tous perdus. Alors il vaut mieux qu'il en soit autrement. Vous voyez d'où vient le refus de la position biblique. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, je vais me borner aujourd'hui à la remarque suivante. S'il en est ainsi que l'acte moral a une telle gravité, alors il faut que le repentir soit possible, parce que sinon on est perdu. Vous voyez ? Vous voyez pourquoi la notion de repentir va trouver un fondement absolu. Est-ce que c'est clair ? Et que la première réflexion de la morale, la première réflexion morale pour la tradition biblique, c'est est-ce que le repentir est possible ? Si le repentir est possible, j'accepte la loi. Mais si le repentir n'est pas possible, il ne faut pas accepter la loi. Et nous apprendrons que pourquoi les Goïms ont refusé la loi, n'ont pas accepté la loi, c'est parce qu'ils n'ont jamais pu comprendre que le repentir était possible. C'est clair ? Il y a un cas particulier de la conscience hébraïque. Ensuite, ils ont appris des Hébreux. Ils hébraïsent, mais ça c'est ce second. Vous voyez ce midrash qui dit que Dieu a proposé la loi à tous les peuples. Vous avez entendu ce midrash ? Tout le monde l'a refusé, sauf Israël. Voilà déjà ce qu'il y a derrière. Pourquoi ils l'ont refusé ? Parce qu'ils ne savaient pas que le repentir était possible. S'ils savaient que le repentir était possible, ils auraient pu l'accepter. Mais comment accepter une loi qui fait qu'avec un acte, je peux être sauvé, mais avec un acte, je peux être perdu ? Alors, si le repentir ne vient pas comme réparation de la faute éventuelle dans sa gravité, je ne peux pas accepter la loi. Est-ce que c'est clair ? Bon. Alors, nous reprendrons donc tous ces thèmes la prochaine fois, mais je pense que cette introduction était nécessaire, Ken, de telle sorte de vous faire comprendre la dimension d'importance de la catégorie du repentir comme préalable à la loi. Et quelle est la qualité, la position dans la, par rapport à la Torah de ce qu'on appelle le Baal Tshuva. Et ça, nous verrons dans la prochaine. Bon, il nous reste quand même 5-6 minutes. Et je pense qu'on a vu beaucoup de choses, donc vous avez sûrement beaucoup de questions, mais l'Aïnian. Mazé l'Aïnian dans le sujet. Ah non, il a levé la main. Bien que la courtoisie et la galanterie auraient fait que. Je te crois. Ah, commence pas à perdre du temps. Pose ta question. C'est une dimension possible, mais sur des toutes petites choses. Ça peut être amélioré par la descendance, mais amélioré, pas plus. Amélioré notablement, mais amélioré. Il faut d'abord qu'il y ait un scrut par soi-même, un minimum de scrut par soi-même, et la descendance améliore. Mais ça nous échappe. Nous ne savons pas comment ça fonctionne. Je vous dis, nous ne savons pas, pour pas que vous m'interrogiez. Alors tout se passe comme si on ne sait pas. Non, vraiment on ne sait pas. Mais c'est-à-dire ça c'est des problèmes avec lesquels il ne faut pas se casser la tête. Hein. Bon. Il faut savoir que globalement, okay, il faut savoir qu'effectivement la descendance s'améliore. Il y a une phrase dans la Gemara qui dit, c'est en araméen, Bera mezake abba. Le fils fait mériter le père. Et vous rappelez Abraham sort Noir. Vous rappelez ça. Et nous verrons un autre verset, un autre thème important. Jacob sort Abraham. Parce que ça va encore beaucoup plus loin. Avec Abraham seul, ça aurait pas été suffisant. On n'aurait pas pu dire Dayenu. Okay, il fallait Jacob. Et c'est parce qu'Abraham portait Jacob qu'Abraham lui-même. Vous rappelez les analyses qu'on a eues au dernier coup. Okay, Abraham tout seul, ça pourrait aboutir à l'impasse Ishmael. Okay, mais comme il y avait en Abraham la possibilité de Isaac, dans laquelle il y avait la possibilité de Jacob, c'est Jacob qui a sauvé Abraham. C'est basé sur un verset d'Isaïe, je vous le dis en passant. Eloke Yaakov Asher Pada et Abraham. Dieu de Jacob qui a sauvé Abraham. Et on lit Yaakov Asher Pada et Abraham. Jacob qui a sauvé Abraham. Bon, Tu réponds. Mais la vraie réponse est... Je ne peux pas en parler que sur un pied comme ça, d'ailleurs je suis sur deux pieds, mais ça revient au même. C'est le Gilgulim. C'est-à-dire on revient jusqu'à ce que... Ça c'est la vraie réponse. La descendance améliore. Mais chacun a son, sa destinée entre ses propres mains. Alors on est arrivé jusqu'à un point X de l'acquisition de son être. Il est arrivé à un accident de voiture ou peu importe. On est sorti de ce monde, mais on revient jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et c'est pourquoi il y a une telle inégalité spirituelle chez les contemporains de n'importe quelle contemporanéité. Okay? Je veux dire, je vous explique pourquoi rapidement. L'orthodoxie de la Torah n'impose pas de croire au Gilgulim. Je ne traduis pas parce que le mot de réincarnation n'a pas le même sens. C'est tout à fait autre chose. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Le Gilgulim, c'est de dire revenir pour se recycler. Et alors, recyclage. Et alors, pourquoi ce n'est pas imposé comme croyance? Parce que seul celui qui sait qu'il est dans ce cas peut comprendre de quoi il s'agit. Je me suis mal exprimé. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer un piège, quelque chose d'invraisemblable, qu'un entendement ne peut pas arriver à comprendre, alors on n'impose pas. Parce que l'expérience montre que seul celui qui sait qu'il est dans ce cas peut comprendre de quoi il s'agit. Pour les autres, c'est absolument incompréhensible. Alors, on n'impose pas de croire en quelque chose auquel la conscience, la personne, la pensée est rebelle. Parce que ça risque de le faire excommunier. Si tu ne crois pas comme ça, tu es excommunié. Je ne peux pas croire comme ça. Serais-je excommunié? S'il est moral, il n'est pas excommunié. Il est moral, il ne croit pas dans le Gilgul. C'est un bon juif. Mais il en reste... Vous avez compris ce que je veux dire? En général, on n'excommunie pas d'après des croyances. Parce qu'il faut être capable de les comprendre. Et si tu n'es pas capable naturellement de les comprendre, on ne va pas t'imposer ça. Ce serait un piège. C'est clair? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la mentalité hébraïque. Bon. Et alors, seulement, c'est l'explication, la seule explication qui explique vraiment toutes les questions que vous vous êtes posées sur la destinée humaine. Par exemple, un enfant de 3 ans, tu te rappelles?
Oui.
Bon. C'est la seule explication possible. Et la tradition de ce problème dit qu'on a 1000 chances. Mais ce n'est qu'à la 999,99 qu'on sait de quoi il s'agit, quand c'est trop tard. Et qu'on sait qui on a été pendant tout ce temps. Vous suivez? Par conséquent, très peu ont conscience d'être dans ce cas. Donc on n'impose pas ça à la collectivité. Mais la collectivité en question sait que les hachamim savent que c'est comme ça. Et voilà, grosso modo. Mais, encore une fois, ce n'est pas des problèmes pour vous. Je veux dire, en tout cas pour votre âge et pour votre niveau d'études, réfléchissez pas à ces choses-là. Vous savez que ça existe, mais occupez-vous de savoir comment on est moral. Ça, c'est important, c'est urgent. Les histoires mystiques, ça, c'est pour plus tard. Je ne sais pas si je vous avais cité cela. Je me rappelle un de mes professeurs de lettres au lycée. Il savait jouer au tennis, Yotsuminaka, d'autre part. Et alors, il nous disait une chose, on sait, je crois, en troisième. C'est la classe où on fait des exercices de versification, okay, des dissertations en vers. Alors, il nous disait, vous savez, quand on écrit des vers quand on a 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on écrit des vers à 70 ans, c'est que peut-être on est poète. Et il avait raison, okay, ne vous trompez pas. Quand on est mystique à l'âge de 17 ans, c'est qu'on a 17 ans. Si on est mystique à l'âge de 70 ans, c'est que peut-être c'est sérieux. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tous ces problèmes mystiques, à votre âge, laissez ça de côté. C'est clair, parce qu'on ne saurait jamais si vous êtes vraiment mystique ou si c'est simplement une fatigue spirituelle de l'âge de 17 ans. Je n'ai pas dit psychique, mais enfin, c'est tout. Bon, est-ce qu'il y a une autre question?
Moi, je dois revenir à un problème de l'enfant de 3 ans qui disparaît. Je crois que si, par exemple, ça se situe au niveau de la douleur ou de la souffrance, quand on n'est pas concerné personnellement, je crois qu'on remet là un peu sur... Quand on est concerné personnellement...
Tu liras attentivement le livre de Job et on aura l'occasion d'étudier. Je comprends très bien, mais alors à ce moment-là, il y a deux problèmes différents. Ce qui concerne lui, sa destinée, et ce qui concerne toi, ta destinée. Et ça, ça fait partie de ta destinée, pas de la sienne. Il y a plus de
scandale. Mais quand c'est pas dans le père et le fils, d'accord. Il y a quand même un rapport.
D'accord. Mais il y a 1000 explications possibles pourquoi c'est arrivé. Ce que je veux dire, c'est que si nous n'avions pas l'enseignement des Gilgulim, ça serait incompréhensible. Avec l'enseignement de Gilgulim, nous savons qu'il y a une explication. Laquelle? Ça dépend du cas particulier. Okay. Et je t'ai répondu formellement, okay, parce qu'il faut des cas concrets. Qui, quoi, dans quelles conditions, quelle famille, quelle... Et puis, Tout ça, ça a commencé au premier homme, à travers chacune des familles qui vivent sur Terre. Okay. Alors, pour connaître l'histoire...
Quelquefois, on a du mal à remonter, je
ne sais
pas. Au niveau de la raison et au niveau du sentiment.
Mais c'est sûr. C'est pourquoi je t'ai parlé du livre de Job.
Et c'est la réalité.
Oui, ça veut dire que ça fait très mal. Mais ça ne met pas en question le sens de la destinée. On n'a pas dit que la destinée terrestre, ça fait pas mal. Ça fait mal. Entre autres avec ça, il y a encore d'autres choses. Mais ça ne met pas en question qui est signification. Le fait que la signification soit pénible et fasse mal, ça ne met pas en question la signification. Et alors, c'est pour ça que je vous dis, ce ne sont pas des problèmes qu'on peut arriver à surmonter très jeune, trop jeune. Il faut une expérience de la vie qui, comme telle, est une sagesse. C'est-à-dire l'âge, comme telle, est une sagesse. Et pouvoir se poser ces problèmes-là. À ce moment-là, on les étudie, on les comprend. Avant, on ne peut pas comprendre. C'est pas qu'on ne peut pas comprendre. Avant, on ne peut pas supporter.
Je suis d'accord avec vous, mais ça peut arriver à la même.
Quoi donc?
Ce genre de
problème. Non, bien sûr. Bien sûr. C'est non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, je vous conseille pas. Je vous conseille pas de vous préoccuper de ces problèmes-là à cet âge. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suffisamment d'expérience de la réalité de la vie pour savoir de quoi on parle, la vie et la mort. Premièrement, cela. C'est façon, on comprend vraiment que c'est la vie et la mort et que la mort n'existe pas. Et ça, à votre âge, on comprend pas. Il y a des cas exceptionnels, mais c'est peut-être un guilgoul. Et à ce moment-là, le fait que la mort ait lieu à l'âge de 3 ans ou de 58 ans, c'est un problème second.
Okay. J'avais dit que le bonheur, c'est tout à la moralité. Mais est-ce que la moralité, ça entraîne le bonheur ou pas forcément?
Bien sûr, mais j'ai dit, vous voyez, le critère était inversé. Le bonheur peut être un acte moral, mais c'est parce que d'autre part, il est un acte moral. Okay. Et d'autre part, inversement, la moralité est aussi et engendra le bonheur et utile et rationnel, mais dans ce sens-là, le bien est aussi cela. Mais le critère n'est pas dans l'utilité et le bonheur. Tu suis? Réfléchis bien à cela. Mais je pense, il faut revenir à l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure, que tous ces grands philosophes de la moralité savaient très bien, savaient, on ne prend pas un mathématicien en erreur d'addition. Un grand philosophe comme un utilitariste ou un rationaliste ou un idéaliste ne va pas faire une erreur aussi grossière de se tromper de critère. Okay. Il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, d'autre part, il est relié au sentiment moral. Et puis, il expose le bien moral avec les plus grandes chances pédagogiques d'être entendu. Et lorsqu'il parle dans un temps culturel où le critère, c'est l'utilité, alors il se sert de l'utilité pour faire passer la moralité. Mais le fond du problème, c'est que la pensée naturelle n'arrive pas à fonder le bien en tant que bien. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? À cause de ce postulat que la pensée naturelle n'a pas expérience du problème de la finalité de la durée de la conscience. Parce que son postulat, c'est qu'elle existe déjà, tout simplement.
Est-ce qu'on peut dire alors que Job est quand même heureux?
Job est quand même heureux? Explique plus, parce que je comprends pas ce qu'il veut
dire. C'est-à-dire, est-ce qu'il est moral, Job?
Job est quand même heureux, bien qu'il souffre, c'est ça que tu veux dire?
Non,
non, justement.
Puisque
il n'était pas heureux. Non, Job était malheureux, sinon il ne se plaindrait pas. Mais, c'est sûr, okay. Mais il a suffi que Dieu s'adresse à lui pour que Job sache, bon, il y a une explication. Il ne connaît pas laquelle. Dieu lui dit, tu ne peux pas comprendre. Dieu lui dit, tu peux pas. Lisez le livre de Job avant de poser des questions dessus. Ne parlez pas de Job par oui dire. Lisez ce qu'il y a dans ce livre. À la fin du livre, Dieu s'adresse à Job dans un discours incompréhensible, mais dont on peut retenir provisoirement qu'une chose claire. Dieu dit à Job, est-ce que tu étais avec moi quand j'ai construit le monde, quand j'ai créé le monde? Alors tu ne peux pas comprendre comment il fonctionne. Mais il suffit que Dieu, le Créateur, s'adresse à lui et Job, la réaction dit, ah bon, il y a un sens, je suis tranquille, maintenant ça va. Et qu'est-ce qui faisait souffrir plus Job? Ce n'était pas tellement ses souffrances, mais leur caractère absurde, leur caractère sans sens. Vous comprenez? Dès qu'il sait qu'il y a, bon, il y a un sens, eh bien ça va, il est tranquille. Dieu s'occupe de moi, je suis sauvé. Et c'est là qu'il se guérit, et c'est là que... Bon. Vous suivez? Bon.
Qu'est-ce qui fait que ça arrive à des gens qui vivent selon la moralité?
Mais est-ce que vous savez qui ils sont? Vous voyez des apparences. Bien sûr, ils vivent selon la moralité, mais qui ils sont depuis le premier homme? Tu comprends? C'est pourquoi je vous ai dit ça, c'est des choses cachées. Hors de portée de la pensée naturelle, ne vous préoccupez pas de problèmes de ce genre. Il y a une science, parmi les sciences de la Kabbalah, qui s'occupe de ça. Il faut arriver à un certain âge, une certaine expérience de la vie, avoir déjà étudié toute la Torah du Niglé, et ça veut dire tout le Tanakh, tout le Talmud, et le reste, pour arriver là. Alors vous êtes jeune, vous avez le temps, mais je vous donne un conseil pratique. Ne perdez pas de temps à des problèmes qui ne sont pas de votre âge, comment dire, c'est une question d'âge mental, de votre âge d'expérience de la vie. Les mêmes mots n'ont pas le même sens si on n'a pas une expérience X, qui n'est donnée que par l'âge. Vous savez, l'âge, ça existe, mes artères le savent, et il faut en tenir compte.
Cette intuition, laquelle les philosophes ou que les égoïmes ont d'une perception d'un sens, enfin d'une
d'une transcendance morale.
Vous la mettez pour vous, enfin, c'est la Bible qui l'a.
Non, j'ai pas dit.
Les consciences en dehors du système.
Il y a deux, je vous ai dit deux choses, il y en a oublié une. C'est vrai que je parle trop vite, mais enfin, vous pouvez écouter l'entendre.